France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la chasse. Alors que la saison débutera dans quelques jours, la chasse générale, et qu'elle a même déjà commencé en Alsace. Question sur les chasseurs qui sont plus d'un million en France. Quelles sont leurs motivations? Quelles sont les conditions pour pouvoir s'adonner à ce passe-temps? Question notamment sur la sécurité qui concerne aussi bien les pratiquants que les promeneurs qui pour certains ont peur de se faire tirer dessus. On parlera notamment de cette pétition qui réclame depuis des années un jour sans chasse, peut-être un dimanche sans coup de feu. Puis on parlera aussi bien sûr de la cible des chasseurs, des animaux sauvages et des questions que cela peut poser en matière de biodiversité. Avec nous pour aborder tous ces sujets, Willy Schran, qui est le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marc Giraud, le porte-parole de l'ASPAS, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages. Bonsoir.
Bonsoir.
Marc Giraud, auteur d'un livre intitulé « Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus ?»
C'est
chez Marabout. Et bien sûr, toujours avec nous, l'astrophysicien Hubert Reeves, président de l'association Humanité et Biodiversité. Rebonsoir Hubert Reeves.
Rebonsoir.
Pour interpeller nos invités, le numéro c'est toujours le même, vous le connaissez, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et bien évidemment, vous nous appelez que vous soyez chasseur ou pas. Ce soir, on va vraiment discuter tous ensemble. Un premier appel, c'est celui de Julien qui nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Julien, bienvenue. Julien est-il en ligne sur l'antenne de France Inter? Personnellement, je ne l'entends pas.
Julien... Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On vous reçoit
bonsoir.
5 sur 5, c'est parfait. Pour quelle raison avez-vous souhaité nous appeler?
Alors c'est vrai que le thème de la chasse, pour moi, est un thème qui m'intéresse. Parce que moi, je suis usager également de la nature, parce que je suis trailer.
Vous dites également, c'est-à-dire que vous êtes chasseur avant tout, c'est ça?
Oui, je suis chasseur également, oui. Je suis chasseur également, mais je suis aussi usager de la nature. Je fais à la fois du trail et du VTT. Et c'est vrai que bon, je ne chasse pas en région parisienne, je chasse principalement en Bretagne. Mais en région parisienne, c'est vrai que je fais beaucoup de trail, notamment en forêt de Fontainebleau. Et en général, ça se passe plutôt bien avec les chasseurs. Les chasseurs de la forêt de Fontainebleau, je ne les connais pas du tout. Mais quand on se promène en forêt de Fontainebleau, ça se passe plutôt bien. Alors en fait, ma question, c'est comment faire en sorte que les défenseurs de l'environnement puissent s'entendre, en fait. Parce qu'aujourd'hui...
Attendez,
on
vous
n'a
pas très bien entendu, là, il y a eu un petit crachouillis sur la ligne. Ce n'est pas de votre faute, Julien. Quelle est votre question, précisément?
Comment faire en sorte que les défenseurs de la nature puissent s'entendre?
Parce qu'en
fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient interdire la chasse le dimanche, alors qu'historiquement, les chasseurs ont toujours chassé le dimanche. Les différents usagers de la nature ont toujours pratiqué leur sport ou leur activité dans la nature le dimanche. Je pense pas qu'aujourd'hui...
Comment on fait pour mettre tout le monde d'accord et comment on fait pour cohabiter? C'est un petit peu ça votre question.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors on
c'est
va ça, poser peut-être pour commencer la question au président de la Fédération Nationale des Chasseurs qui est là. Bonsoir Willy Schran.
Oui, bonsoir.
Vous, évidemment, il n'y a pas d'incompatibilité, j'imagine.
Évidemment, il n'y a aucune incompatibilité. D'abord, il existe des cadres et les choses sont bien définies. Et effectivement, il y a quelques personnes aujourd'hui qui colportent toujours la même chose, de dire qu'il y a une incompatibilité entre les chasseurs et les autres usagers de la nature. Donc sur le fond de l'action de chasse, déjà c'est une première erreur, il y a des cadres qui sont donnés, et il y a une grande différence entre d'ailleurs le public et le privé. La forêt de Fontainebleau est une forêt publique, elle est partagée entre les chasseurs et les autres usagers de la nature, les communications sont fortes, tout est très clair. Normalement, il ne peut pas y avoir de problème.
Marc Giraud, de l'espace.
Oui, ce chasseur dit « on a toujours chassé, donc on n'évolue jamais ». C'est un petit peu symbolique de... En fait, la nature, il y en a de moins en moins, et des gens qui fréquentent la nature, il y en a de plus en plus. Et il y a des conflits, parce qu'il y a les beaux discours, et il y a les réalités de terrain.
Non, mais les réalités, je vous coupe tout de suite.
Pardon, Willy Schran, chacun son tour.
Je comprends tout à fait,
je vous redonne la parole après.
Si vraiment ce
on
qui
laisse
raconte,
Marc Giraud terminer son raisonnement, si vous le voulez bien.
Oui, on n'est pas obligé de s'agresser. Nous, moi, je parle du terrain, je parle de la majorité des Français, après tout, parce qu'il y a 2 millions de cavaliers, il y a 15 millions de randonneurs quand même, il y a 20 millions de cyclistes et il y a 1 million de chasseurs. Et ces chasseurs-là ont, je dirais pas tous les droits, mais beaucoup de droits. Il y a un sentiment d'insécurité, notamment les jours d'ouverture de la chasse. Moi j'habite à la campagne, hein. Faut pas non plus inventer des clivages, d'un côté la ruralité où tout le monde serait chasseur et de l'autre les bobos des villes. C'est pas vrai. Et nous, tous les jours au téléphone, à l'ASPAS, on a des gens, des ruraux, qui se plaignent de chasseurs qui se croient maîtres chez eux et qui refusent toute évolution et tout partage. Nous, ce qu'on demande, justement, c'est une trêve de la chasse le dimanche. C'est pas incroyable. Ça existe dans tous les pays d'Europe, sauf la France.
Alors là, je pense qu'il y a un premier problème dans l'approche de M. Giraud. Bon, je ne suis pas spécialement surpris sur la question. C'est que d'abord, vous faites porte-parole de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes porte-parole d'une association groupusculaire de 4500 personnes. Et vous venez d'annoncer que vous représentez... Sauf depuis qu'effectivement, il y a eu un bouquin qui est sorti qui expliquait vos propos salariés que vous aviez largement doublé les choses. On en
parlera. On va en revenir au fait, Willy Schramm. Attendez, il y a des auditeurs...
Si M. Giraud me coupe et que je ne peux pas continuer, il a posé une question.
C'est moi qui arbitre
ici. Des choses et elles sont claires.
C'est moi le chef.
Je reviens sur le point.
Pardonnez-moi.
Je reviens sur la question.
Excusez-moi. Est-ce qu'on peut juste parler de sécurité une seconde? Quelle est la réalité des faits concernant les accidents? Parce que si on parle de sécurité, c'est bien pour cette raison.
Laissez-moi, madame Sermazan, revenir deux secondes quand même sur les choses. Monsieur Giraud pose une équation dont il n'est pas porteur. C'est pas lui qui est le porte-parole. Il vient de mettre en cause 15 millions de randonneurs en France. Nous, on a des accords et on a des conventions de partage de la nature dans la moitié des fédérations de France avec les fédérations de randonneurs. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que ces gens-là sont pas d'accord? C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça, c'est vous qui le dites. Et tous les autres gens que vous avez cités, ce sont des gens qui partagent avec nous la nature. Vous colportez quelque chose qui n'est pas la réalité.
On a fait un sondage, hein. Il y a 78% des Français qui voudraient une trêve de la chasse le dimanche.
Non, j'ai vu le sondage, c'est pas tout à fait ça.
78% et une majorité de ruraux, parce que c'est eux que ça gêne.
Non, je
suis désolé.
Vous trompez.
Tous les jours, encore une fois, moi je suis sur le terrain et tous les jours à l'ASPAS, on a des gens qui se plaignent, notamment parce qu'on fait des refuges pour que les gens soient tranquilles chez eux, qu'ils interdisent la chasse dans leur jardin. Et il y en a, mais qui sont harcelés, on leur bousille leur clôture, on leur flingue des fois leur chat ou leur chien. On les a tous les jours au téléphone.
Pardonnez-moi, c'est tout le monde. Là, on va faire la parenthèse que j'ai souhaitée tout à l'heure. On fait une parenthèse sur la sécurité et sur les accidents. Willy Schramm, moi, j'ai cherché les chiffres sur le site de l'Office de la chasse. Saison 2015-2016, 146 accidents, dont 10 mortels. Vos chiffres sont les mêmes?
143.
Et 2016-2017, 143, dont 18 mortels.
Oui, tout à fait.
C'est beaucoup.
80% de plus de morts.
Pardon, c'est beaucoup. Non, que répond le président de la Fédération des Nationales de la Chasse?
Alors, je réponds effectivement qu'il y a des morts à la chasse et ça arrive. Bon, c'est de toute façon toujours un grand drame, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, ce qui me rassure,
il y a des morts
tout,
parmi les pratiquants.
Il y a quand
même
80 personnes qui meurent en randonnée tous les ans. On a quand même 52 morts au ski, 37 morts chez les alpinistes. Je ne vais pas parler des morts en voiture parce que si on vous laisse faire, M. Giraud, je pense qu'on fermerait toutes les autoroutes et les
on
routes de France.
On peut rester sur la chasse.
Bon, on va rester sur la chasse, sauf qu'il faut remettre
comment
ça dans un contexte général.
Comment faites-vous pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces accidents?
Nous avons un travail de fond qui est colossal. Nous avons baissé significativement depuis des années ces accidents.
La saison dernière, c'est mortel, c'est beaucoup quand même.
Oui, mais combien il y a de gens qui se tuent avec un vélo, alors on supprime les vélos?
Non mais attendez, avec une arme, c'est évident qu'il y a des risques.
Oui,
comment faites-vous pour réduire...
Il existe, mais madame, l'être humain n'est pas parfait. Il peut y avoir effectivement des fois où il se passe un drame, on en connaît tous les jours, il n'y a qu'à lire la presse, et il ne faut pas parler de chasse pour autant. Donc voilà ce qui se passe tout simplement. Moi je reviens sur le partage
juste une
de
seconde,
nature,
attendez,
sécurité.
Il y a un permis de chasse qui existe. Hein,
bien sûr,
voilà, donc on peut
très
passer
difficile
à partir de l'âge de 15 ans, c'est une épreuve d'une journée, si j'ai bien lu.
Ah non, c'est pas une journée, l'examen sur une journée.
Oui, sur une journée.
La formation est de 6 mois en moyenne.
Voilà, après, avec un certain nombre de questions. Comment faites-vous pour contrôler, éventuellement, pour améliorer, pour éviter ces accidents? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose?
On a un contrôle permanent. Nous sommes régis par un cadre très strict du ministère. On a effectivement un cadre sécuritaire. Il y a des choses qu'on applique. On ne fait pas n'importe quoi en matière de chasse. Bon, les choses, je dirais, se développent tout à fait correctement sur le terrain. Il arrive, malheureusement, parce que le risque zéro n'existe pas. Et je le regrette profondément qu'il y ait toujours quelques personnes qui peuvent trouver là-bas, effectivement, pendant une saison de chasse.
Marc Giraud. Et ensuite, on passera la parole à Hubert Reeves et on ira au standard de France Inter.
Ce que je vais dire va faire bondir Willy Schramm, mais c'est la vérité, c'est un fait. Quand on a obtenu son permis de chasse, il n'y a plus aucun contrôle, ni du chasseur, c'est-à-dire des contrôles de la vue, des contrôles de l'alcotest. Interdit les alcotest, c'est-à-dire qu'on peut chasser bourré en France, c'est légal. Il n'y a pas de contrôle de l'arme, il n'y a pas de contrôle de ce maniement.
Mais tout le monde a le droit de contrôler quelqu'un en alcotest.
Non.
Sur la route, en tout cas, il y a
même un agent de l'ONCFS.
Mais c'est la gendarmerie qui peut le faire.
Ah oui, mais alors il faut aller chercher les gendarmes et tout ça.
Ah bon?
Mais non, il y a vraiment pas de sécurité. Il y a pas de sécurité à ce niveau-là.
Non, monsieur,
il y a aucun contrôle médical comme.
Je suis désolé.
Non, il y a pas de contrôle médical.
Vous êtes malheureusement.
Non, et infraction.
Dans la doctrine très dure et c'est dommage.
L'infraction chasse en état d'ivresse n'existe pas.
Alors messieurs, faudrait peut-être quand même qu'on arrive à entendre les auditeurs de France Inter dans quelques secondes et puis surtout que vous parliez les uns après les autres parce que sinon on va pas s'en sortir. Et puis j'aimerais quand même passer la parole à notre juge de paix ce soir, Hubert Reeves.
Je voudrais dire ce qu'on attend des chasseurs.
Oui.
En particulier, je crois que nous sommes d'accord pour admettre que lorsqu'on veut faire une promenade en forêt et qu'il y a des tirs, c'est raté. Ça, c'est une vérité universelle. Pour avoir la paix, pour se concentrer dans une promenade en forêt, il faut pas un bruit de chasse. Ça, les chasseurs le comprennent aussi bien que moi, je suis sûr. Ce qu'on attend des chasseurs, c'est qu'ils ne font pas, c'est de prendre eux-mêmes des initiatives. Moi, j'aimerais que les chasseurs un jour décident, le dimanche, c'est pas de chasse. Là, on les prendrait au sérieux. Mais très souvent, quand il y a des crises, par exemple, quand il y a eu du gel dans la Camargue et que les oiseaux étaient gelés au sol, les associations ont demandé qu'on ralentisse ou arrête la chasse, on n'a pas vu d'associations de chasseurs se mettre au devant. Les chasseurs, ils sont toujours là pour allonger les dates de chasse. Je ne connais pas d'exemple où des chasseurs ont dit, ben non, pour tel oiseau, parce que les femelles sont enceintes, il faudrait rediminuer. Toujours, on a la même chose avec notre mouvement. Je ne suis pas contre les chasseurs. Vous l'avez dit, monsieur. Vous avez dit que j'étais contre les chasseurs. Je ne suis pas contre.
Ça,
ah ben, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. J'ai l'enregistrement à la télévision.
Ah oui, mais
Il est contre les chasseurs. La preuve, c'est qu'il fait partie d'un mouvement qu'ils appellent le ROC, le Rassemblement des Assemblements à la Chasse. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que quand on m'a invité à être président de ce mouvement, j'ai dit à deux conditions. La première, c'est que je ne suis pas un opposant systématique à la chasse. Donc, je ne suis pas opposant à la chasse. Et la deuxième, je n'aime pas être en opposition. J'attends qu'on ait des mouvements dynamiques qui mettent en avant la biodiversité, la situation de l'humanité par rapport à tous ces problèmes. Et là, les chasseurs, ils sont bien muets, il me semble.
Je vais répondre au professeur, c'est important.
Oui, et puis là, on rapidement, et ensuite, il y a Joël qui vous posera une question au standard de France Inter.
D'abord, vous avez parlé du partage de la nature, monsieur le professeur. Bon, là, c'est un point fondamental entre nous. Je répète à nouveau. La propriété privée est quand même un droit universel de la Constitution française. Quand vous êtes chez vous, monsieur le professeur, et que vous êtes sur votre territoire, et que vous désirez chasser, que ce soit un dimanche ou un autre jour, c'est quand même votre droit fondamental. Les espaces publics, je dis bien les espaces publics, sont partagés de façon très stricte entre les chasseurs, l'État qui demande aux chasseurs d'intervenir une à deux journées par semaine, voire une journée par quinzaine, je prends les forêts domaniales par exemple, ils payent pour ça d'ailleurs, faut le savoir. Mais il est quand même incroyable qu'on ait ici un débat de dire, c'est quand même facile de vouloir partager ce qui vous appartient pas. Vous êtes propriétaire d'une forêt, monsieur le professeur. Hein. Alors vous êtes propriétaire de votre maison de campagne, j'entendais tout à l'heure. Vous êtes prêt à me partager ça dimanche après-midi, on va faire un barbecue, moi je m'installe chez vous, il n'y a pas de problème. On est dans la propriété privée. C'est quand même fondamental.
Vous êtes propriétaire, mais avez-vous le droit de mettre le feu à votre forêt? Non. Il y a des lois plus générales que la propriété. Il y a le bien-être de la population, la nécessité d'avoir la possibilité...
Oui. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, monsieur le professeur, parce que là je pense que vous allez beaucoup
trop loin dans ce domaine. Et on attend que les chasseurs prennent des initiatives.
Alors, on les prend. En biodiversité, c'est important ce que vous avez dit. En biodiversité, c'est un sujet qui nous est cher.
Alors, on va parler de la biodiversité.
De rétrécir les périodes de chasse. Je n'ai aucun exemple où des chasseurs ont dit, eh bien, regardons pour les animaux, pour le bien-être des animaux. Alors, ne chassons
là,
plus quand il commence à faire noir. Ne chassons plus.
Vous vous trompez tout à fait. Je pense que vous êtes extrêmement compétent en astrophysique et vous avez fait rêver des générations, oui, et moi, bon, y compris dans ma jeunesse. Je pense que quand on arrive sur le sujet de la chasse, vous êtes beaucoup moins précis.
Pardonnez-moi, mais cette émission s'appelle Le téléphone sonne. Il y a Joël qui est en ligne. Elle a une question. On va terminer sur la sécurité. On parlera biodiversité et du reste tout à l'heure. Joël, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ça va très bien, très bien. J'ai pas de question vraiment parce que je veux simplement témoigner du fait que j'ai deux amis très proches qui sont morts à l'issue d'une battue au sanglier, il y a une dizaine d'années, l'autre une quinzaine d'années, en ramassant des champignons, dont l'un sur son propre territoire. Et que j'ai failli, fin janvier, être la troisième victime, mais que, miraculeusement, la balle destinée au sanglier, parce que le chasseur m'a prise pour un sanglier, alors que je lisais mon journal adossé à un arbre en haut d'un champ qui était tout à fait visible. Et voilà, le miracle a fait que la balle n'a fait que m'emporter une partie des chairs de mon bras, n'a pas touché ni l'artère ni l'os. Mais enfin, j'ai été quand même bien escagassée, bien secouée, un choc énorme, et que j'aurais pu, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé à moi, j'aurais pu vous tuer. Bah, je dis oui, ça c'est sûr. Il était dans un état de choc effrayant, encore pire que moi, bien que mon bras était tout ouvert et tous les vêtements complètement explosés. Et voilà, je veux quand même, donc, tout ce qu'on dit, c'est charmant, mais il n'empêche que il y a rien à faire, il y a des morts, il y a des accidents, le mien était minime, ça aurait pu être bien pire, mais voilà, il y a eu enquête de gendarmerie, procès verbal de gendarmerie, j'ai été hospitalisée 15 jours, on passera au tribunal au printemps, et voilà.
Alors, merci beaucoup Joël pour cet appel. Merci, oui, Shran va vous répondre. Peut-être un mot Marc Giraud, parce
que... Oui, un tout petit avant tout de recevoir une douche de Monsieur Shran. Ça fait partie des réalités de terrain qu'on voit tous les jours. Alors évidemment, il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui se fait pulvériser le bras, c'est pas ce que je veux dire. Mais tous les jours, on a des plaintes, des blessés, des chevaux qui se font abattre, etc. Moi-même, j'ai eu des problèmes dans mon jardin, enfin, dans mon village, c'est pareil. Il y a vraiment un problème dont pour lequel les chasseurs sont très très pudiques et pour lequel on pourrait quand même faire un effort et commencer à dialoguer au lieu de s'invectiver et de nier.
Alors, oui, les Shran, juste sur l'histoire du dimanche, c'est vraiment non négociable,
mais,
ça ou...
Mais pourquoi voudriez-vous qu'on négocie quelque chose? Alors, les gens qui travaillent toute la semaine et qui ont le droit, effectivement, à la biodiversité et à gérer les espèces par la chasse, parce que ça reste pour moi la meilleure écologie de terrain, tout le reste c'est du blabla, on en parlera si vous voulez, mais il n'y a aucun problème, j'ai pas peur, ça ne me dérange pas. Donc, effectivement, c'est un droit fondamental et ces gens qui sont chez eux, qui ont le droit, dans le cadre des lois de la République, de la Révolution, de pratiquer la chasse raisonnée, intelligente, quantifiée. On tire pas n'importe quoi, on prélève des animaux en fonction d'études qui sont faites, de reproduction, et ces gens-là devraient mettre un terme à leur passion le dimanche, qui est le seul jour où ils peuvent aller à la chasse, au nom de qui, au nom de quoi?
Mais c'est exactement au nom de la sécurité.
Mais madame, la sécurité, on en a parlé. Il y a des tas de choses qui sont très dangereuses. Vous le savez, il n'y a pas que la chasse. On regrette toujours qu'il y a 18 morts. On fait énormément de boulot de ce côté-là. Et vous le savez, on vous envoie des brochures. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On continue là-dessus. De toute façon, il y a un point. On pourra, à mon avis, peut-être être d'accord sur M. Giraud. Moi, je suis tout à fait conscient on peut avoir un problème tout au long d'une vie de chasseur. Je m'en suis jamais caché. Si vous avez lu un petit peu ce que j'ai écrit, je souhaite effectivement qu'on puisse, de temps en temps, tous les 10 ans, par exemple, remettre à niveau les personnes, parce que les chasses peuvent avoir changé, les modes de chasse peuvent avoir changé, et j'ai déclaré clairement que, du côté des chasseurs, nous étions favorables, nous, à ce que, tous les 10 ans, on puisse effectivement remettre à niveau les gens qui chassent.
Hubert Reeves.
Alors, je reviens sur votre question du droit de la propriété privée. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez vous, mais le bruit de vos fusils ne reste pas chez vous. Chez nous, nous avons des photos, des forêts qui ne sont pas possédées par des chasseurs, mais les bruits des...
Vous venez en volant à Paris entre votre maison.
Pardon, oui, laissez-le finir.
Et vous n'avez pas la paix, vous comprenez ça? Est-ce que vous n'avez pas envie des fois de vous balader tranquillement, en silence, pour sentir la présence des arbres?
Alors rassurez-vous, on se balade en silence dans la forêt ou dans les milieux pour la biodiversité, puisque vous savez très bien que les chasseurs donnent 78 millions d'heures bénévoles aujourd'hui à l'entretien de la nature et au maintien de la biodiversité. Et ça, c'est pas avec le fusil. Maintenant,
Monsieur Rive,
quand vous vous promenez avec votre voiture, vous faites un bruit. Ce bruit, si vous passez devant chez moi, peut tout autant me déranger qu'un coup de fusil. Alors, vous avez qu'à apprendre à voler. On va tous se mettre à voler, ça va aller beaucoup mieux.
Est-ce que, quand vous entendez des bruits de fusil dans une forêt, vous vous sentez vraiment relax?
Oui. Ah, parfaitement. Ah ben, alors là, je pense même que
vous n'êtes pas fait pareil tous les deux.
Moi, étant donné que la chasse est partie intégrale pour moi de la gestion de la biodiversité.
Tous les gens que je connais refusent de sortir dans la forêt à la période de chasse. Parce qu'ils ne sont pas en paix, on perd son temps.
Vous avez endoctriné de bonheur.
Pardonnez-moi, Willy Schran, vous mettez quand même bien souvent des panneaux zone de chasse, attention à vous.
Mais tout est communiqué, c'est des jours, à des moments précis. Je prends l'exemple de la chasse dans mon département du Pas-de-Calais. Hein, les espèces en plaine, par exemple, on dit chasser tous les dimanches. Vous dites tous les dimanches. Vous savez combien de dimanches en moyenne on chasse maintenant? C'est en jour de chasse d'ailleurs. Eh ben, on chasse en moyenne 4 à 6 jours par an. Ça, c'est ce que chassent les gens en pleine.
On ne le sait pas, la population ne le sait pas.
Moi, je vous le dis. Alors, on ne peut pas dire qu'on occupe tous les dimanches. C'est complètement faux. On régit tellement, de façon stricte, les choses, que les gens n'ont que quelques dimanches pour aller à la chasse.
Mais vous pourrez pas admettre d'interdire la chasse le dimanche et la liberté toute la semaine, mais un jour par semaine, moi, je suis pour le partage.
Jamais nous n'interdirons la chasse le dimanche.
Voilà, ça c'est au
moins c'est clair. C'est un fondamental de la République, un acquis des hommes, au nom de qui, au nom de quoi, on est chez nous, les gens qui ont une propriété, chasseront les gens.
Je peux parler deux minutes. Passer la parole à Marc Giraud.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
Et ne pas le couper, et ensuite on ira au standard.
Les ruraux se plaignent que les chasseurs se croient chez eux, c'est-à-dire ils ne partagent pas parce qu'ils sont chez eux. Or, voilà. C'est exactement le contraire. Quelqu'un qui veut interdire la chasse dans son jardin, par exemple, ou sa propriété, a beaucoup de mal à interdire la chasse chez lui. Et même quand on fait un refus à Spas ou qu'on interdit vraiment la... Bon, c'est tout un truc administratif, évidemment. C'est pas facile d'interdire la chasse, et même quand on le fait, un chasseur qui veut achever un gibier devant vos yeux, chez vous, il a le droit de le faire. Donc qui est chez lui,
c'est
les chasseurs
faux.
Qui sont chez eux
c'est
partout.
Complètement faux, non,
arrêtez
Giraud.
De dire
chut, vous êtes chez vous,
fois,
si on ne peut pas aller chez vous achever un gibier, personne n'ira.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Ce que je dis, c'est vrai.
Didier est en ligne de Marseille, s'il vous plaît, on l'écoute. Bonsoir Didier, bienvenue dans ce débat un peu houleux. Hop. Le téléphone a coupé, me semble-t-il. Alors on va prendre peut-être Damien qui nous appelle de Lozère. Bonsoir Damien, est-ce que vous êtes là?
Ah non, ça fait deux morts déjà.
On n'a pas beaucoup de chance. La question de Didier, je vais vous la poser. C'est Didier qui est là?
Allô.
Didier, est-ce que vous nous entendez? Non, c'est Damien.
C'est Damien, oui, c'est Damien.
Pour quelle raison? Oui, bonsoir Damien, vous êtes, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir, merci, Madame Sarrajan, de recevoir mon appel. Monsieur Giraud, Monsieur le Président de la Fédération des Chasseurs de l'eau de France.
Bonsoir. Hein,
bonsoir. Monsieur Rive.
Bonsoir. Monsieur.
Non, je vous appelais pour faire un petit témoignage. Dans une logique d'apaisement, je suis en Lozère, 6 000 chasseurs, 70 000 habitants. Et je voulais simplement témoigner pour vous dire qu'il y avait des gens qui chassaient de manière responsable, dans un profond respect de la nature. Et de la biodiversité. Et à ce sujet-là, je voulais vous dire que nous, dans un territoire rural, la chasse, c'est un loisir, une activité qui nous est proposée. Et au même titre que le trail, sur le premier témoignage, le VTT, la spéléo, l'escalade, nous pratiquons de manière traditionnelle cette activité. Et nous n'avons en aucun cas raison de la pratiquer de manière excessive. Et Monsieur Giraud, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui, certes, chassent, mais le font de manière raisonnable et respectent.
Oui, mais pas tous.
Je ne vais pas rentrer dans les débats de sécurité et autres, puisque lorsque j'ai passé mon permis de chasse, j'ai passé donc toute une batterie de tests et de questions qui, à la base, portaient sur le respect des espèces protégées et autres. Tout ça, ça a été remis en question, remis en cause, et il n'y avait que des questions de sécurité. Je vais vous dire, quand la première fois que j'ai pris mon fusil de chasse, j'avais peur, et du coup, maintenant, lorsque je pratique vraiment de manière raisonnable. Je peux comprendre qu'il y ait des accidents, comme dans toute pratique, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a pas que des gens qui se prennent, je peux parler vulgairement, comme pour des cow-boys, et qui chassent de manière raisonnable. Je chasse, pour ma part, que la bécasse. Et il y a un profond respect dans cette pratique de chasse de notre territoire, de ce qui nous est offert. Et si je peux, simplement, une dernière chose, j'interpellerai à ce moment-là le président de la Fédération des chasseurs et lui dire que il faudrait vraiment abaisser le prélèvement des bécasses parce que il faut respecter ce gibier en particulier. Merci d'avoir reçu mon appel.
Merci beaucoup Damien pour cet appel. Alors Monsieur le Président, faut faire attention aux bécasses.
Aux bécasses. Bah, écoutez, je pense que les prélèvements des bécasses a priori posent pas trop de problèmes.
Alors rien ne pose de problème
en Lozère. Ces chiffres de prélèvement sont des chiffres précis. On ne prélève pas n'importe quoi. Vous avez un quota par personne à prélever en France qui correspond à des indices de reproduction. Hein, qui se trouve à l'est des Monts Ouarals. Voilà. Donc vous avez une étude permanente qui est faite, on bague des bécasses, on quantifie la reproduction de cette bécasse et on applique une pression de chasse. Voilà. Pression de chasse qui bouge, évidemment, en fonction de la reproduction. Je vous l'ai dit, les choses sont quand même extrêmement strictes.
Enfin là, c'était quand même un des vôtres qui s'inquiétait. Oui. Marc Giraud, sur l'équilibre des espèces.
Oui, d'abord, je voudrais dire que j'ai des amis chasseurs que je peux discuter. Je sais qu'il y en a qui sont plus raisonnable que d'autres, mais il ne faut pas généraliser dans les deux côtés. Il y a quand même une majorité qui ne respecte pas beaucoup. Enfin bon, passons. Je sais bien qu'il y en a qui... D'ailleurs, les chasseurs qui sont raisonnables, tôt ou tard, finissent par poser leur fusil et prendre des jumelles comme moi, et ça se passe beaucoup mieux en général.
Alors, on parlait des espèces.
Sur la biodiversité, il y a beaucoup, la plupart des espèces d'oiseaux chassas, par exemple, sont en mauvais état de conservation. L'alouette des champs, par exemple, sur les mammifères, pareil, la martre, enfin, on chasse aujourd'hui en France 91 espèces, c'est le record en Europe. C'est comme les jours non chassés, quoi. Il y a qu'en France qu'il y a ce genre de situation. Et les chasseurs ne veulent rien entendre sur rien. Ils ne cèdent sur rien. Il n'y a pas un jour de chasse en moins. Il n'y a pas une espèce en moins. Au bout d'un moment, moi, j'arrive pas en agresseur. J'arrive juste en demande de partage. Voilà. Et ça, c'est impossible. On a un bloc en béton en face de nous.
Hubert Rivoux, qui êtes président de l'Agence de la biodiversité. La chasse, c'est un problème pour la survie des espèces en France?
Ça n'est plus le problème majeur que c'était dans les années 70. Ça, il faut bien reconnaître. Et je pense qu'on peut s'entendre, mais encore une fois, pour nous, l'important, c'est le partage. Les chasseurs agissent comme s'ils étaient maîtres et rois, parce qu'à la Révolution, ils ont le droit
chez eux.
C'est le dimanche. Oui, mais nous sommes tous chez nous.
Nous sommes tous chez nous.
On dit, il faut partager. On est tous chez nous, donc partageons. Et partageons, ça veut dire faisons les uns et les autres des sacrifices.
C'est une
motivation qui est raisonnable. S'asseoir autour d'une table,
période de chasse
dire
est
ce
très
que nous
courte,
demandons et décidons. Et vous avez dit très clairement, jamais nous négocierons cela.
Le dimanche, jamais.
Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt au partage de tout le monde. Si tout le monde vous dit,
c'est la majorité. C'est
la majorité vous dit. Cessez de chasser le dimanche, vous vous dites non, c'est notre droit. Mais vous ne partagez rien du tout. Vous n'êtes pas du tout coopératif.
On a quelques dimanches par an.
Vous n'êtes pas démocratique.
Mais vous rigolez. On n'arrête pas de partager. On a quelques dimanches par an.
Mais vous ne voulez pas admettre
si
toute la population le demande.
Vous n'y arriverez pas.
Si toute la population le
demande. Alors, en attendant.
Pardonnez-moi,
en attendant.
Vous êtes beaucoup plus doué dans les étoiles.
On va partager le micro avec.
Raisonnable.
On va partager le micro avec Bruno qui nous appelle.
Enfermé dans sa position
je sais pas où.
Et y tenir en disant jamais, jamais. Vous vous dites jamais.
Ah mais c'est pour ça jamais, oui c'est sûr. Oui.
Bon, allez, on appelle Bruno.
Il n'y a pas de discussion.
Pardonnez-moi
possible.
Messieurs,
ce
vous
sujet,
êtes
non.
déraisonnable.
C'est vous qui êtes déraisonnable.
On appelle Bruno. C'est particulièrement compliqué ce soir. Bonsoir Bruno.
Ah ben vous savez ce qu'on affronte avec les chasseurs
Bonsoir,
tous les jours.
Bonsoir Bruno,
hein.
Êtes-vous là?
C'est le chef. Aussi peu de temps.
On vous entend, profitez-en.
Oui, donc j'espère que je ne vais pas me faire couper la parole par le monsieur qui est pro-chasse. Voilà, moi je voulais simplement témoigner d'une chose.
Non, rassurez-vous.
Je vis en Cévennes, dans un endroit reculé, en pleine campagne. Et je tiens à préciser une chose, c'est que chez nous, l'ouverture de la chasse, c'est déjà depuis le 15 août. Et que les chasseurs chassent le dimanche, le samedi et le mercredi, ça fait 3 jours par semaine. Et je voulais apporter mon témoignage à propos de la notion de propriété privée. Voilà, je suis chez moi, j'ai quelques hectares autour de chez moi, j'ai des citernes d'eau qui me servent à boire et arroser mon jardin, et pour avoir refusé au président d'une société de chasse locale la signature de mes terrains pour qu'ils aient le droit de chasser chez moi, 2 années, le jour du 15 août, je me suis fait vider mes citernes à mon absence, ce qui fait qu'en rentrant de week-end, je me suis retrouvé sans eau chez moi.
C'est
pas
sympa.
Il y a eu un dépôt de plainte à la gendarmerie, aucune suite. Il y a eu signalement, bien entendu, à la société de chasse du Gard, parce que c'est dans le Gard que ça se passe, dans les Cévennes gardoises, aucune suite non plus, et on est obligé de subir donc cette atteinte à la propriété privée, ne serait-ce aussi que déjà pour pouvoir rentrer chez moi quand il y a une battue, le chemin est barré parce que les chasseurs sont au milieu, les 4x4 en ont absolument rien à foutre du droit de passage, et les panneaux battus en cours signalent aux éventuels promeneurs qu'ils courent un danger en allant se promener dans la châtaigneraie. Donc, quand ce monsieur parle du droit de propriété privée, excusez-moi, mais je suis absolument scandalisé et je pense que ça s'entend à mon ton.
Voilà. Merci Bruno pour cet appel, pour ce témoignage. On voit que c'est tendu en tout cas.
Dans les campagnes, oui, les ruraux, c'est tendu.
J'ai bien compris, il y a de l'eau qui a été volée. A priori,
il y a
monsieur pense que c'est les chasseurs.
Visiblement.
Bien sûr, il n'y a aucune preuve, mais forcément, c'est les chasseurs de Tannemine, monsieur Giraud. On a encore fait ça, mais en pique.
Arrêtez
même l'eau l'été maintenant.
S'il vous plaît. Moi,
nous volons l'eau l'été dans les citernes des gens maintenant dans le Gard, dans les Cévennes gardoises. Oui, oui, bon, peut-être, je ne sais pas.
Alors, on va voir, on va être en ligne à présent avec François qui, lui, visiblement, aimerait concilier les points de vue des uns et des autres. Je ne sais pas si c'est possible. François, vous êtes en ligne ?
Oui, bonjour.
Bonsoir à vous. Bienvenue.
Bonsoir. Oui, non, je ne crois pas que je vais concilier, malheureusement, les uns et les autres. Moi, je représente le Rassemblement pour une France sans chasse, donc le RAC, qui milite pour l'abolition de toute forme de chasse en France. Hein. Nous sommes au 21e siècle. Les chasseurs représentent aujourd'hui 1,5% de la population et ils veulent imposer à tous leur façon de concevoir leur rapport avec le monde animal. Donc nous développons un argumentaire, hein, puisque, bon, souvent on nous oppose de passionné pour la chasse, passionné anti-chasse. Nous appuyons sur l'intelligence, nous développons un argumentaire qui va sur trois axes, l'axe éthique, écologique et sociétal. Alors éthique, hein, le plaisir de tuer aujourd'hui au 21e siècle, apprendre aux jeunes à tuer pour de vrai, nier le caractère sensible de l'animal. Écologique, hein, les chasseurs se présentent comme des régulateurs, or ils lâchent 20 millions d'animaux par an en France dans les campagnes pour alimenter les tableaux de chasse. Ils ont augmenté...
Peut-être une petite question, François.
Oui, parce que là, bon, il y a tellement d'erreurs dans ce que dit monsieur, mais il faudrait qu'il pose une question.
Une petite question, hein, bon, François.
Non, mais s'il prend un plaidoyer, il fallait venir à l'émission.
Il y a vraiment possibilité de concilier cette activité qui est nuisible aujourd'hui avec l'évolution des valeurs de la société et donc les problèmes écologiques. Voilà. Merci.
Merci.
Alors,
François,
c'est important,
pour
effectivement,
votre appel.
Sur les valeurs de la société, tout dépend effectivement quelles valeurs on peut avoir. Monsieur m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il est tombé amoureux d'un monde animal peut-être et qui pourrait, à mon avis, mettre en danger l'espèce humaine.
Vous êtes le seul à connaître les animaux.
Immolâtré à ce point-là. Oui. Effectivement, oui, je pense, oui. Je vois beaucoup de gens qui vivent à Paris ici. Moi, je viens.
Vous savez, quand on les
observe,
il faut être plus malin que
mais
quand on les tue.
Parce qu'il faut, on va parler effectivement de la question de ce monsieur. Sur d'abord 1,5 million de chasseurs, je pense qu'il y a une petite erreur technique. Hein,
il y a quand même moins.
Il y a 5 millions de personnes qui portent un permis de chasse en France. Faut pas l'oublier.
Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a 5 millions de chasseurs?
5 millions de personnes qui portent un permis de chasse en France. Et nous avons 1,2 million de personnes qui le valident. Pour des raisons familiales, vous arrêtez une année, pour des raisons professionnelles. Mais nous avons 5 millions de personnes en France qui sont détenteurs d'un permis de chasse. Alors, comme association minoritaire, c'est pas mal. Hein, quand je vous vois, messieurs, porter des grandes paroles et quelques milliers d'adhérents, je veux bien. Alors, avant d'expliquer que la France entière déteste le monde de la chasse, je pense que vous vous trompez.
C'est un
nous,
sondage
des ruraux. On vient du terrain.
C'est
on vient du ruraux. Non, non.
Chacun
vous dites
tour.
Qu'il y a plein
chacun
de gens, effectivement, qui sont pas contents, qui la chasse peut poser des problèmes. Nous, dans nos villages ruraux, ça, on voit pas beaucoup de gens qui viennent nous dire que ça va pas. C'est plutôt un dernier lien social qui aujourd'hui régit la ruralité. C'est souvent les seules personnes qui font de l'écologie ordinaire et qui s'occupent de la biodiversité ordinaire, parce que les grands sachants des parisiens, on les voit pas beaucoup sur le terrain, et les grandes idées comme ça. Donc,
ah, ça
avant
est,
de prendre
parti.
Des leçons dans
le
ce domaine, hein, venez
merci
un peu
Willy
voir
Schran.
La France profonde et vous allez, à mon
merci
avis,
Willy
tomber
Schran.
De haut.
Hubert Reeves, oui. Les chasseurs font de l'écologie?
Moi, je voulais dire, je vous admire. Je vous admire de défendre une cause si impopulaire, et ce serait bien ce
mais
que je vous dirais.
Laissez-le parler, Willy Schran, s'il vous plaît.
Si je pouvais vous faire une suggestion, vous avez un poste important, vous avez une grande influence sur les chasseurs, vous reconnaissez comme nous qu'il y a des problèmes, on aimerait que vous soyez actifs justement dans l'amélioration des comportements des chasseurs, au lieu de les défendre comme vous faites par des arguments qui valent ce qu'ils valent. On aimerait bien
Moi, j'aurais voulu qu'on débatte ensemble de biodiversité.
Mais vous
êtes sur le dogmatisme de l'anti-chasse. Vous êtes venu pour m'expliquer.
Qu'il
fallait diminuer
le nombre
de chasse.
Si vous parlez
c'est
ensemble,
qu'on n'ait pas pu parler d'écologie.
Pardon,
c'est dommage.
Quand vous parlez
je
ensemble,
ne suis pas
on ne vous
je
entend
crois
plus.
Qu'est-ce que c'est qu'un anti-chasse pour vous, monsieur Reed?
Je ne suis pas anti-chasse.
Ah
je crois que la chasse.
Ça a toujours
été
votre formule pour vous sortir de tout. Mais vous êtes un anti-chasse primaire,
la
sectariste parmi les sectaristes.
La chasse de régulation. Pour moi, les chasseurs, c'est comme les pompiers. On fait appel à eux quand il y a un problème. Et là, c'est important.
Mais sans la chasse, mais qu'est-ce qu'il y aurait des milieux en France? Mais qu'est-ce qu'on aurait sauvé comme zone humide? Bien avant que vous soyez professeur, bien avant que vous ayez écrit des bouquins, ou vous qui fermez les cloches de verre dans la Drôme, où on n'est même plus capable de trouver la moitié des espèces locales.
S'il vous plaît, nous repartons une nouvelle fois au standard.
C'est vous qui faites n'importe quoi.
Au standard de France Inter. Frédéric nous appelle de l'Aude. C'est bien ça, Frédéric? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais participer à votre réunion.
Notre pugilat.
Je voulais, Je voulais vous dire que notre village aujourd'hui, c'est le lien social, Madame la Chasse. C'est le lien social.
Voilà, écoutez-moi bien. Lien.
On est dans le lien social. Ici, il n'y a plus rien. Alors, si aujourd'hui vous nous supprimez la chasse, comment je vais faire moi avec mon village? J'ai même plus aujourd'hui la mairie et elle n'existe quasiment plus. Alors le lien social, nous on l'a et on veut le garder, Madame. Il faut qu'ils les comprennent, ces gens de la ville.
Mais d'abord, on n'est pas de la ville, arrêtez avec ce clivage de pensée, c'est ce que je disais au début, laissez-moi parler s'il vous plaît, monsieur Schrahn, la ruralité, on l'a tous les jours au téléphone,
salue au passage.
La ruralité, des fois, elle en a marre de chasseurs qui se croient chez eux, qui ne veulent rien entendre. Et je suis content d'ailleurs de rencontrer monsieur Schrahn pour la première fois, parce qu'il représente exactement le lobby chasse. Il n'écoute pas. Il refuse la réalité, il n'évolue pas et il agresse ceux qui ne sont pas d'accord. C'est exactement ce qu'on affronte tous les jours sur le terrain. Vous êtes typique et je pense que vous êtes exactement le chef des chasseurs.
Je suis ravi de porter ces valeurs-là. Vous faites beaucoup rien, M. Giraud.
C'est un peu vrai, oui.
Je vais répondre à la question.
On a parlé de lien social, de lien social rural. Alors, moi, ça me fait marrer. Vous m'avez dit, M. Giraud, ce n'est pas le mien, le lien social, la chasse.
Non, dans mon village, ce n'est pas le lien social.
J'ai appelé votre mère, il ne vous connaît même pas. Il vous connaît même pas dans votre village.
Qui, mon
c'est
maire?
Quoi votre lien social?
Attends,
vous existez.
Vous connaissez
de
mon
quoi?
Village?
Bon alors, bien sûr.
Mon maire, d'abord, c'est une femme, donc vous connaissez rien.
Alors,
du
bien c'est sûr. Pas des arguments.
Connais même pas. Monsieur. Alors, me parlez pas de lien social.
On a fait une conférence ensemble sur les amphibiens, des animaux que vous connaissez pas et que vous ne protégez pas.
Une question parce que l'émission.
Allez, on va prendre une question.
L'émission se termine. Donc, pour vous, c'est niet. Dimanche sans chasse, hors de question. Ni samedi, ni mercredi, aucune concession sur quoi que ce soit. C'est ça.
On n'est pas dans la concession.
C'est le chêne et le roseau.
La chasse aujourd'hui est le meilleur outil de gestion des territoires et du maintien des écosystèmes. Sans la chasse, nous aurions perdu énormément de biodiversité.
Ça, c'est l'autosatisfaction.
Voilà. Mais bien sûr, mais vous avez fait
discutable.
Quoi, vous
discutable. Bon. Hautement discutable.
Alors, c'est pas discutable, monsieur Rive. On aurait pu s'entendre sur certains points, vous le savez. Les études, les chasseurs font des études. Les chasseurs prélèvent effectivement ce que la nature apporte aujourd'hui, soit de problèmes, soit de trop-plein. Je prends par exemple l'exemple du grand gibier. On peut enlever les chasseurs.
Vaches, par exemple.
On peut enlever les chasseurs demain.
Non.
Qu'est-ce qu'on fait des sangliers en France?
On n'enlève pas les chasseurs comme on n'enlève pas les pompiers.
40 milliards d'euros seraient nécessaires aujourd'hui pour maintenir le grand gibier dans ce que font les chasseurs aujourd'hui.
Gestion,
moi, si vous voulez payer, monsieur Giraud, avec l'ASPA, ça me dérange pas, mais c'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros aujourd'hui si vous interdisez la chasse en France. Pas de problème. Sortez de l'argent. Mais
arrêtez avec votre truc catastrophiste.
Bien sûr. Mais bien
il est
sûr.
Pratiquement,
c'est pas vous qui gérez 300 hectares.
Qu'à la chasse
dans la Drôme, qui allait quand même donner des leçons de gestion des territoires.
Si je peux en placer une, tous les printemps, avec les gens de mon village, il y a un lien social et avec ma mère, justement, ma mairesse, c'est qu'on ramasse les crapauds qui se font écraser. Il n'y a jamais un chasseur pour nous aider. Je me suis renseigné partout en France, il n'y a jamais un chasseur pour nous aider à protéger les amphibiens. Vous n'en avez rien à faire.
Parce
que
pas loin de chez vous, monsieur. Il y a une fédération à côté de chez vous qui a monté un centre de sauvetage
s'il vous plaît,
de tout oiseau.
S'il vous plaît, chacun son tour. On a entendu Marc Giraud. J'aimerais qu'on entende à nouveau Hubert Reeves parce que l'émission se termine.
Oui, je reviens à cela. On aimerait que les chasseurs prennent des initiatives qui nous encourageraient à comprendre qu'en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment ce qu'ils prétendent faire. Mais c'est jamais prouvé.
Alors, bon, écoutez, prouvez-nous, monsieur Reeves, que vous êtes capable de parler vraiment de biodiversité avec nous.
Non, mais vous foutez
travaillons ensemble.
Vous foutez
moi,
je ne parle pas
du dogmatisme de l'espace. D'accord. Je parle d'un professeur Reeves.
On est des naturalistes.
Il y a des
de
compétences,
terrain,
effectivement,
animaux,
en astrophysique, mais je pense, on pourrait progresser, à mon avis, sur votre vision de la biodiversité avec la chasse. Je pense qu'on est bloqué sur un truc fondamental qui est de dire, aujourd'hui, la chasse, c'est tuer des animaux. Il y a un blocage de ce côté-là. J'entends bien.
Oui,
moi,
vrai.
Je dis la
sans
chasse
fusil,
aujourd'hui
mieux, hein.
Peut être le meilleur outil pour gérer la biodiversité. Je vais prendre un exemple. On a vu il y a quand même quelques semaines Nicolas Hulot, on a beaucoup discuté de biodiversité, il n'y a pas eu de clivage. Il a reconnu qu'on pouvait faire beaucoup de choses ensemble. On vérifiera, effectivement, oui. dans les mois qui viennent. Mais il n'y a pas eu de clivage, je vous assure. Donc on peut tout à fait travailler avec les chasseurs, mais sectariser, dogmatiser.
Alors mais là, c'est vous facile. Qui faites des clivages avec vos parisiens bobos.
Je suis d'accord avec ce que vous dites.
Alors,
il
attendez.
Faudrait se mettre autour d'une table pour discuter ensemble. Un partage. Et un partage, ça
non,
veut dire...
Je reviens.
Laissez-le finir,
semaine,
pardon, Willy Schrahn.
Au moins un jour pour les autres. C'est ça, un partage.
C'est pas la question.
C'est que chacun cède quelque
on
chose
on a une biodiversité ordinaire,
non,
monsieur
Riz,
qui aujourd'hui a des vrais problèmes. On maintient des territoires par l'argent des chasseurs bénévoles, vous le savez. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Travaillons sur cette biodiversité ordinaire. Là, il y a un vrai boulot à faire.
Travailler ensemble, c'est 19h59 et 45 secondes. C'est terminé. Un grand merci, d'être venu.
Merci
à tous les trois. Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs. Marc Giraud, porte-parole de l'ASPAS. Je rappelle votre livre, Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus chez Marabout. Un grand merci à Hubert Reeves qui a passé ces deux heures avec nous. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Il est 20h sur France Inter.